Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de sursaut gamma. Alors, comme vous voyez, on va parler de gamma ray burst, donc GRB, qui pourra abréger un petit peu notre discours. Donc d'abord, quel va être le plan de l'exposé ? Évidemment, un peu d'histoire, parce que comme vous le savez, ça a pris 30 ans avant qu'on réalise un petit peu qu'est-ce que c'était ces sursauts gamma. Je vais décrire les propriétés, la distribution isotrope, etc. On verra que ces sursauts arrivent en deux types, deux catégories. Donc il y a une bimodalité, et il y en a la plupart, 75%, sont longs. Alors quand on dit long et court, c'est par rapport à 2 secondes. Donc tous les courts sont de la milliseconde à 2 secondes, et les longs ensuite. Et puis on verra qu'il y a une luminosité rémanente qu'on va parler afterglow, en anglais, c'est ce qui vient après le sursaut, qui peut durer des heures, des minutes, même des mois et des années pour la radioastronomie. Et ces afterglows vont nous donner beaucoup de renseignements sur la source, donc les galaxies hôtes de la source, qui vont donner le redshift, donc la distance, etc. Et on finira par les applications. Est-ce qu'on peut sonder le milieu intergalactique, faire de la cosmologie avec ces gamma ray bursts ? Alors déjà, comment ils ont été découverts ? Eh bien, ils ont été découverts par hasard, comme beaucoup de découvertes astronomiques qui doivent beaucoup à la sérendipité, comme on dit en franglais. Donc, c'était les satellites Vela qui ont lancés par les États-Unis à l'époque où il fallait vérifier que les Russes vérifiaient bien le traité de non-développement d'essais nucléaires, donc en 1963. Alors, vous voyez un satellite Vega ici et un détecteur d'une carte scintillation. Alors, ce qu'ils ont vu, ce ne sont pas justement les essais et les rayons gamma. Il y avait des détecteurs gamma X, des détecteurs de neutrons et des rayons cosmiques. Les satellites étaient à 137 000 km d'altitude. Vous voyez le signal qu'ils ont eu en 67. Ici, vous avez en secondes, donc ça démarre à zéro. Vous avez, ça dure 6 secondes. Donc, de l'ordre de la seconde, là, c'était plutôt un long, puisqu'il est plus grand que 2 secondes. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Voilà ce que c'est. Ici, une petite animation. Vous voyez qu'en seconde, là, vous avez un petit sous-burst et puis un grand burst. Quand vous voyez la vue du ciel dans les coordonnées galactiques, vous voyez la Voie lactée, et vous voyez qu'il y a un petit burst, un deuxième, et puis le très gros. Ce qu'on ressent dans cette photo, c'est que lorsqu'on est au maximum du burst, on domine en luminosité même la Voie lactée. Donc c'est vrai que très souvent, la luminosité en quelques secondes, elle est énorme. Alors, ces satellites de Vela qui ont détecté ces sursauts gamma ou gamma ray burst, on voyait que, quel que soit le satellite, alors, il y en avait plusieurs, je passe pour la photo ici, qui vous montre que, par exemple, il y a 4 satellites, et si l'émission venait de l'atmosphère de la Terre ou du Soleil, on aurait vu des points de vue complètement différents de ces satellites, ce qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire que tous les satellites voyaient la même chose, ce qui veut dire qu'ils étaient très très loin, on pouvait même dire qu'ils étaient de distance au moins 1 million, 1 mégaparsec, vous savez que la distance d'Andromède c'est environ 0,8 mégaparsec, donc au moins Andromède, on va voir que les GRB peuvent aller jusqu'au début de l'univers près du Big Bang. Donc si on le met à 1 mégaparsec, ça ferait 10 puissance 46 erg d'énergie. Et en fait, comme ils sont cosmologiques et beaucoup plus loin, ça peut être 1052, 53 erg, donc énorme. Alors ici, vous avez au début donc un article a compilé les 16 GRB qui étaient détectés dans les débuts, et on avait l'énergie donc de 0 à 1,5 MeV, on avait plusieurs énergies, les durées. Et on a exclu tout à fait que ce soit justement un essai nucléaire, en tout cas, que ça ne venait de la Terre ou du Soleil, et ça ne correspondait même pas à une supernova, qui sont les événements les plus énergiques jusque-là. Vous savez qu'une supernova qui est très très puissante, elle peut en effet éblouir et être plus brillante que la galaxie. Parfois, très loin, on voit que la supernova, on ne voit pas la galaxie haute dessous. Donc ça pouvait peut-être être une supernova, mais non, il y avait, en tout cas dans la direction, on voyait, puisqu'on pouvait trianguler avec les satellites, ça ne correspond pas à une supernova. Donc, au départ, beaucoup d'hypothèses, au moins pendant 30 ans. Il a fallu attendre 1997 pour qu'on identifie une galaxie haute, donc on sache qu'il s'agissait vraiment d'objets cosmologiques. Donc, entre-temps, beaucoup de théories différentes, un peu fantaisistes, des sursauts magnétiques, la création d'antimatière, l'évaporation des trous noirs, ce qu'on voit arriver toujours, même pour les FRB, les fast radio bursts, on avait vu ça. Plus raisonnables les magnétars, on verra qu'en effet, les magnétars sont un des candidats, ou même des signaux extraterrestres, pourquoi pas. Donc finalement, quand on a vu pendant ces 30 ans qu'il y avait des signaux intéressants, qui étaient peut-être astrophysiques, les astronomes ont préparé des instruments dans l'espace, puisque les gammas sont arrêtés par l'atmosphère. Ici, vous avez le Compton Gamma Ray Observatory, GRO, qui contenait plusieurs instruments. Donc vous avez, par exemple, OC, ici, avec une certaine énergie, comme telle, qui faisait un imageur jusqu'à 30 MeV, et YGRET, très, très énergique, jusqu'à 30 GeV. Mais l'essentiel pour les bursts, c'était BATC, qui était spécialisé dans la détection des transitoires, donc des sources très petites, inférieures à la seconde ou de l'ordre de la seconde. Et il a été opérant de 91 à 2000. Avec ses énergies, il y avait des X-rays et des gammas. Vous voyez ici une photo dans l'espace. Alors, la découverte de BATC, qui a fait énorme progrès, a découvert pendant toute la durée de la mission 3000 GRB. Il y en a un par jour environ. Donc c'est énorme. Et vous voyez que lorsqu'on le met dans un repère de tout le ciel, la Voie lactée est ici, ça ne vient pas de la Voie lactée, puisque vous avez quelque chose complètement isotrope. Alors, tant qu'on ne connaît pas la distance, ça pourrait éventuellement être le halo de la Voie lactée, le halo de la galaxie, encore qu'on verrait peut-être quand même des choses, des amas globulaires, etc., mais soit le halo de la galaxie, ou soit quelque chose de cosmologique complètement isotrope. Donc BATC était ce scintillateur, comme vous voyez, comment détecter ces gamma rays. Dans un scintillateur, un cristal scintillateur, il y avait du rayonnement visible que l'on peut détecter par un photomultiplicateur. L'instrument YGRET produisait des paires. Vous avez une chambre à étincelles qui sont tellement énergiques qu'on peut créer des paires qui sont ensuite détectées. Les divers satellites qui ont permis de faire tous ces progrès sont donc BATC, comme on vient de le décrire. Mais BATC a fait un grand bond en avant en montrant que c'était homogène, isotrope, etc., avec les 3000, que ça était très fréquent, mais on n'avait pas d'origine, on ne pouvait pas tracer, on n'a pas détecté les afterglows avec BATC. Par contre, BepoSax, un peu après, a détecté les X-MU, et en même temps, dans un même instrument, donc a permis de voir, justement, qu'une fois que le burst s'était passé, on avait au même endroit, une rémanence, donc un afterglow, une lueur qui suivait, un peu moins forte, mais qui suivait, et qui permettait de regarder en optique, en visible, et de détecter la galaxie. Donc c'était un des jalons de cette découverte, Van Paradis, en 1997, qui, 21 heures après, a regardé l'émission et a vu une galaxie haute, d'où le redshift important. Donc ce n'est pas du tout dans le halo de la Voie lactée, mais ce sont dans les galaxies. Je mentionne aussi ET2, qui a observé, par exemple, un GRB long qui était coïncident avec une supernovae. Donc ça, c'est important. Première fois qu'on l'avait vu, enfin, c'est en 98 la première fois. En 2003, il est intéressant. Et celui-ci était lancé par la NASA, mais la France et le Japon participaient. Enfin, il y a SWIFT, qui, on a bien vu qu'il y avait des afterglows, et on a réagi, notamment Gerels, qui était le PI de cet instrument. Ce qu'il fallait, c'est pour être réactif dès qu'il y avait une alerte gamma, il fallait rapidement avoir toutes les autres longueurs d'onde. Donc cet instrument avait les rayons X, l'optique, l'UV, de manière à pouvoir suivre les afterglows. Et c'est là qu'on a eu un grand progrès, puisque énormément d'objets ont été identifiés, ont eu leur redshift, et on a pu montrer que c'était complètement cosmologique. Et peu après, Fermi, qui est un télescope gamma, a eu aussi un moniteur de GRB pour voir comment ils évoluaient. Donc voici le premier dont la rémanence a été trouvée. Ici, c'est celui de Van Paradis, en 1997. Donc vous savez que les GRB, comme les FRB qu'on a vus là dernièrement, on dénomme ces numéros par l'année, 1997, le mois, donc février, et 28 février, donc comme il y en a un par jour, s'il y en a deux, on mettra A et B, mais lorsqu'il y en a un par jour, c'est pratique. Donc ici, vous avez donc le 28 février, la découverte du sursaut, et puis, quelques jours après, vous voyez que la source est toujours, il y a bien un afterglow, et cet afterglow est ici. on a la galaxie, elle est à 0,7 environ de redshift. Vous savez que 0,7, c'est à peu près la moitié de l'âge de l'univers, donc on est déjà à 7 milliards d'années de nous. Donc, voilà un énorme progrès, on sait d'où ça vient. De même, d'autres qui ont suivi rapidement, Metzger et Tal, celui-ci aussi en 1997, vous voyez qu'il y a un burst qui, un jour après, descend. Ici, vous avez la courbe en log du temps. Elle descend un peu après le sursaut, ici, ça remonte. Et puis, vous avez cet afterglow qui a une pente en log. Log, ça nous fait une loi de puissance, de l'ordre d'une pente de moins 1 en général, moins 1, etc. Et puis, on a vu la remontée ici à 2 jours plus tard. Vous avez une remontée, sans doute, en rouge. Ici, c'est la bande rouge, donc en optique. Donc, le spectre de celui-ci, 97.05, il a permis d'identifier aussi le redshift. Vous avez des absorptions dans le spectre, avec des raies de fer, de magnésium, etc., qui sont à ce redshift-là. On ne voit pas de galaxie haute encore, mais on sait que s'il y a une absorption, soit on est dans la galaxie, soit la galaxie est à redshift plus loin. Donc on avait en tout cas une limite de redshift, donc une source vraiment cosmologique avec ce sursaut-là. Alors, la première identification avec la supernovae, c'est celle-ci, dans 1998. Alors, pour les supernovae, la dénomination n'est pas la même. On donne l'année, et puis ABCD, et puis ensuite 2 lettres lorsqu'il y en a beaucoup. En effet, il y en a beaucoup ici, c'est TBW. Donc vous voyez que cette supernovae a été détectée en optique dans cette galaxie spirale, ici, qui n'existait pas avant le sursaut. Et lorsque on voit, il y avait un gamma ray burst qui a coïncidé, et vous voyez que l'afterglow en toutes les longueurs optiques, UBV, RI, les courbes sont un petit peu décalées de 0,5 magnitude ou d'une magnitude pour mieux voir, mais on voit typiquement la courbe de lumière d'une supernovae. Une supernovae qui dure 20-30 jours dans toutes ces longueurs d'onde. Donc, pour une fois, ça y est, on a l'évidence qu'une supernovae, en tout cas d'une étoile très massive, peut être à l'origine d'un gamma ray burst, un GRB. L'identification a été faite par Beposax avec Galama et Tal. Alors, les formes de tous ces sursauts gamma, vous voyez, ils sont très variables. Quand on dit sursaut, il y a une certaine... ça s'étale en plusieurs sous-sursauts, en quelque sorte. Vous en avez des longs, des courts. Ici, vous avez une seconde. Vous avez un petit peu une grande variété. Il va falloir comprendre cela. On va voir quels sont les modèles qui vont avoir pour contrainte d'essayer de vérifier pourquoi vous pouvez avoir toutes ces formes. Ceci est en fonction du temps. En fonction de l'énergie, vous voyez qu'on a des lois de puissance aussi, des pics, des descentes, des plats, enfin une grande variété aussi. Et on parle souvent de l'énergie du pic, du sursaut, qui, on va le voir, rentre dans des relations d'échelle qui sont intéressantes pour contraindre les modèles. Donc, un des instruments, comme je disais, qui a fait vraiment progresser le domaine, c'est l'instrument SWIFT. Donc, Neil Gehrels, c'était un des défendeurs ici. Il a écrit un article qui décrivait l'instrument. Malheureusement, il a disparu prématurément à l'âge de 65 ans. Vous aviez donc un burst, un instrument qui détectait le gamma ray burst et faisait une alerte. Et ensuite, vous aviez tout de suite, dans le même instrument, pouvait suivre en X et en UV optique l'afterglow avec 0,3 secondes de précision. Donc c'est ça qui faisait la grande différence avec BATC, par exemple, qui détectait beaucoup de gamma ray burst, mais qui n'avait pas du tout l'identification, les afterglows. Donc SWIFT a détecté aussi quelque chose de tout à fait homogène isotrope, comme BATC, moins quand même, puisque dans tout ce temps-là, il n'y a eu que 1000 sursauts, et non pas 3000, mais simplement parce qu'ils avaient mis l'accent sur l'identification des afterglows. Et on va voir que, grâce à SWIFT, on a pu remarquer que cette bimodalité entre les longs et les courts, les longs, on a vu qu'il y en avait au moins un ou deux qui étaient identifiés à des supernovae, donc on va voir que ça va se confirmer. Les longs vont être l'effondrement d'une étoile géante, et peut-être les courts on va voir, seront dues à la fusion de deux objets compacts, étoiles à neutrons qui deviennent un trou noir, etc. Alors, les sursauts courts ont été identifiés beaucoup plus tard. D'abord, ils sont plus faibles, l'afterglow est plus faible, et donc c'est beaucoup plus difficile de détecter. D'ailleurs, on va voir qu'ils sont détectés à des redshifts plus faibles. Et pour aller très loin en redshift, ce sont en général les gamma ray bursts longs. Et enfin, le dernier instrument qui a beaucoup agi dans ce domaine, c'est Fermi. Vous avez l'instrument Large Area Telescope qui balaye tout le ciel en 3 heures. Donc il est bien plus sensible que Aigret sur le GRO. Et ce sont des scintillateurs ici. Et puis le moniteur de GRB qu'on appelle GBM, Gamma Ray Burst Monitor, et qui a notamment détecté le plus puissant ici, un GRB de 0,8-0,9-16C, cette fois-ci il y en avait 3, de 10KF à 10GF, et qui est un redshift de 4,35, ce qui est vraiment très loin, on approche du Big Bang, à 12 milliards d'années-lumière. L'énergie de 9000 supernovae. Alors, toujours cette énergie, évidemment, on ne sait pas si l'énergie vient dans un faisceau ou si elle est isotrope à partir de la source. Donc, quand on dit cette énergie-là, c'est, on suppose isotrope. On verra plus tard si on doit la restreindre à cause d'un beaming, par exemple. Alors voici ce qu'a permis de faire le moniteur de GBM, ici, de Fermi. Vous voyez qu'en fonction du temps, on a plusieurs zones, A, B, C, D, E. On va faire le spectre tout à l'heure, donc on a cette suite de A, B, C. Et puis ici, vous voyez l'énergie qui croît. Ici, 8 keV à 260 keV, donc c'est des X très durs, des gamma ici, et puis encore plus, jusqu'à un GeV. Et ce qu'on voit bien, c'est que les hautes énergies arrivent plus tard. Là, il est très clair, et il est visible jusqu'à 200 secondes. Alors, tout cela, ce sont des contraintes qui vont être intéressantes lorsqu'on va faire des modèles. Alors, toutes ces énergies-là, elles sont compatibles si on les met en fonction de l'énergie. Vous voyez, les divers instruments voient le même événement. En fait, ils se reportent, ils sont compatibles. Donc, on pense qu'il y a un seul mécanisme qui est à l'origine de toutes les énergies, faibles ou fortes. Par contre, l'évolution temporelle, donc petit a, c'était la première, celle qui arrive tout de suite, et puis BCDE, BCDE, évidemment, en fonction du temps, le burst descend en énergie, mais vous voyez qu'au début, il n'y avait pas de haute énergie, les hautes énergies sont ici, alors qu'à partir de B, vous avez un spectre plus dur, qui est plus plat, et qui descend régulièrement. Donc on voit les hautes énergies après coup, elles ne sont pas tout de suite. On peut, de toutes ces observations, on peut en déduire le facteur de Lorentz des électrons ou des protons qui émettent cette énergie-là, cette radiation synchrotron, et c'est assez énorme, 600-900, c'est ultra-relativiste. Évidemment, au début, et ensuite ça descend un petit peu, une perte d'énergie au fur et à mesure, et la source est assez loin de l'objet compact, puisque c'est 600 AU, donc sans doute on voit l'idée d'un jet qui est émis par la source assez loin de l'objet compact. Donc, on obtient avec Betz et puis aussi Fermi, on a évidemment cette distribution homogène, ça on récupère, et on a cet effet de source compacte qu'avait déjà prévu Metsaros et Ries en théorie, et qui peu à peu s'affirme. Donc, on a un objet compact, alors soit il vient de la supernova, de l'explosion d'une supernova, d'une étoile massive en supernova, on a un trou noir à la fin, et puis, ou bien alors d'une fusion de deux objets compacts, mais en tout cas, on a un jet qui est émis, qui a certainement des chocs très près de l'étoile pour faire un gamma ray burst de variable seconde, de l'ordre de la seconde. Et puis ensuite, ce jet rencontre le milieu extérieur, qui peut être simplement les éjectas de la supernovae ou des éjectas éjectés de façon préliminaire. Et cette interaction avec le milieu extérieur, qui est beaucoup plus loin, c'est justement l'afterglow qui peut être en gamma X, en radioastronomie, en optique, etc. Alors, est-ce que justement cette énergie considérable, est-ce qu'on peut la réduire un petit peu avec le fait que peut-être l'énergie n'est mise que dans un certain angle ? Alors, vous voyez que les énergies sont énormes. Hein, quand on regarde les redshifts considérés, donc des distances énormes, on a 10 puissance 50, 10 puissance 54 erg, seulement en gamma dans les premières secondes. Si on compare avec l'énergie que met le Soleil, la luminosité du Soleil, c'est 4 10 puissance 33 par seconde. Si vous multipliez par 10 milliards d'années, qui est la durée de vie du Soleil, vous avez seulement 10 puissance 51. Donc vous voyez que ces gamma rays, en quelques secondes, émettent plus que le Soleil en 10 milliards d'années, ce qui est assez époustouflant. La supernovae, qui elle est déjà une énorme énergie, sur un mois ne fait que 10 puissance 51. Donc on voit que les GRB sont sans doute assez proches des supernovae, donc comment réduire cette énorme énergie? Eh bien, évidemment, on pense à ce beaming, à cet effet de beam ici. Ça va réduire, puisqu'on les suppose isotropes, donc on les suppose trop grandes. Si elles n'émettent que dans un certain angle, évidemment, on va réduire beaucoup cette énergie. Les GRB sont observés très très loin, c'est pour ça qu'on a cette énergie énorme. Alors, comment va-t-on pouvoir prouver cela? Eh bien, il y a un petit phénomène qui a été trouvé par Rhodes et même par d'autres théoriciens. Ici, vous savez que lorsque on a une particule superrelativiste, même si elle émet dans son référentiel de façon isotrope, ce qu'on voit pour l'observateur, par effet Doppler relativiste, c'est un tout petit angle qui est en 1 sur gamma, gamma étant le facteur de Lorentz. Alors là, le facteur de Lorentz, on avait vu, était égal à 600, par exemple. Donc 1 sur gamma en radian, un radian c'est 60 degrés, donc ça 60 sur 600, ça va faire 0,1 degré. Donc on a 0,1 degré pour les particules individuelles qui sont à un rapport gamma, un facteur de Lorentz de 600. Si on a un angle θ, ce gamma moins 1 est beaucoup plus petit que θ, qui va être de l'ordre de 10-20, on va voir, degrés. Par contre, lorsque le G va ralentir, le gamma va descendre, et finalement, le 1 sur gamma va être plus grand que le G. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une interaction avec, par exemple, des éjectas qui étaient là précédemment, avec un certain G ici. On va voir qu'on a un régime différent. Et en effet, on voit une cassure dans l'émission du G en fonction du temps. Et on va se servir de cette cassure, justement, pour en déduire l'angle de cône du G. Par exemple, ici, ces supernovae-là ont été vues comme ceci. Donc on va en déduire, on va le voir, un angle qui est à peu près 10 degrés, 10-20 degrés, ce qui va nous permettre de réduire l'énergie d'un facteur 100. Donc vous voyez que 1053, 51, on va être vraiment proche des énergies de supernovae. Donc on aura résolu notre problème, qui est qu'on peut se contenter d'avoir les supernovae les plus massives pour expliquer les GRB. Alors il y a beaucoup plus de supernovae que de GRB, donc ça marche. Alors ici, vous voyez le petit principe dû à Rhodes en 99, ici. Vous avez votre source. L'étendue en jaune, c'est le 1 sur gamma d'une particule avec un facteur de Lorentz gamma. Et le G est plus grand au début. Et puis ensuite, le 1 sur gamma devient plus grand que la taille physique du G. Et donc, on voit dans le flux de la source une cassure qui est nette à un certain temps, qu'on va appeler temps G, par exemple. Et à partir de là, on conçoit bien qu'on va pouvoir calculer quelle est la taille du G. Donc, c'est de l'ordre de 10 à 15 degrés. En fait, on peut regarder ici, d'après Frey et al., si on suppose donc que l'énergie est émise de façon isotrope, on a des énergies assez invraisemblables, à 1853 et 1854 R. Et si on suppose qu'elle n'est émise que dans un certain petit angle, évidemment que la plupart du temps, on ne le voit pas, mais on n'en voit que quelques-unes, à ce moment-là, on revient à des énergies raisonnables, I puissance 51, c'est-à-dire égale à celle des plus grandes supernovae que l'on connaît. Alors, est-ce qu'on peut mesurer et voir un peu ce que ça donne pour les longs et les courts? Eh bien, il semble que ce soit la même chose. Alors là, il y a encore des erreurs. Ici, lorsque vous avez une flèche, c'est une limite supérieure ou inférieure. Mais en tout cas, pour celles qu'on connaît, on voit que les bleus et les rouges sont à peu près à la même distribution. Donc, si un G il est un petit peu de la même taille, c'est un peu universel, on a un θ moyen de 10 degrés. Donc, on a vraiment un beaming, il n'y a pas de doute, par les observations. Donc, on arrive à cette vision, un petit peu, qui est due à la théorie, on va voir si elle est confirmée par les observations, que soit on a un objet comme un trou noir qui vient d'une étoile massive, alors massive ça veut dire peut-être supérieure à 30 masses solaires, qui va s'effondrer en trou noir et qui va au bout d'un moment avoir un certain disque d'accrétion autour du trou noir. Ce disque d'accrétion vient de la matière qui a été explosée dans la supernova, donc on conçoit bien qu'il y a un peu de matière qui va revenir, et un trou noir avec un disque d'accrétion, on avait l'habitude avec les noyaux actifs de galaxies, selon la rotation, le spin du trou noir, etc., va donner un jet de particules ultra-relativistes. Et puis, si on a deux étoiles à neutrons, ce pourrait être la même chose, puisque les étoiles à neutrons vont d'abord avoir des interactions de marée entre elles, donc l'enveloppe va peut-être être détruite par interaction de marée. On va avoir un petit peu de matière autour du trou noir et une disaccrétion. En fait, ça va se ressembler à la fin, en quelque sorte, même si la source n'est pas la même. Et donc, le gamma reburst ici, et puis peut-être l'afterglow avec interaction avec le milieu ambiant ou les éjectats. Donc, le beaming, on a vu qu'il était confirmé. Pour un afterglow dans les gamma rays courts, ça a été plus long. Ça a été fait avec Swift en 2005, hein, vous voyez, le 05, en juillet 2005, par Berger et al. On a détecté enfin un premier afterglow et avec une galaxie haute qui était de type elliptique, de vieilles étoiles. Donc c'est ça qu'on va voir. Ici, c'était 0,2 le redshift. En général, on n'a pas besoin d'étoiles jeunes pour avoir des GRB courts, alors que les GRB longs sont toujours détectés dans des galaxies à formation d'étoiles. Donc on sait bien que les supernovae avec des étoiles massives ont besoin d'une région de formation d'étoiles. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on va voir assez souvent, une galaxie elliptique comme galaxie haute, donc comme on le voit dans ce schéma, fusion de deux étoiles à neutrons qui sont très très vieilles. On n'a pas besoin d'avoir une formation d'étoiles il y a 10 millions d'années comme il y a pour les gamma rays longs. Donc le premier GRB court donc, a été simulé par... Enfin, observé et modélisé par Berger et al. Vous voyez un petit peu en fonction de l'énergie, en radio, en infrarouge, optique et rayons X, c'est vraiment un modèle synchrotron qui marche pas mal avec les observations. On voit la galaxie haute avec des raies des étoiles, des raies d'absorption des étoiles, donc une vieille galaxie elliptique. Et alors il faut bien dire aussi que l'énergie totale des gamma rays courts sont bien inférieures à celle des longs, donc on peut voir les longs beaucoup plus loin que les courts. Donc, en résumé, on a cette bimodalité de temps court et long, et on voit bien que la séparation se fait naturellement. On voit cet histogramme où il y a réellement une séparation à 2 secondes. Alors, évidemment, il va peut-être y avoir quelques-uns qui sont un petit peu ambigus, mais il y a bien une séparation. Et cette séparation se fait aussi par la dureté du rayonnement. Quand on appelle dureté, c'est le rapport entre l'émission qu'il y a dans les gamma durs, ou les X durs, et puis les rayonnements mous, à plus faible énergie. Et en effet, vous voyez que l'enveloppe ici des durées courtes, elle est plus dure, donc il s'agit de spectres plus durs pour les courts que pour les longs. Et on voit aussi là-dessus qu'il y a beaucoup plus de longs que de durs, on avait dit 75%, 25%, on le voit très bien ici. Donc, pour les longs, on pense qu'il y a une explosion de supernovae. Alors, de quelle masse? Ici, on a des supernovae un petit peu ordinaires, entre 8 et 30 masses solaires de l'étoile ordinaire. On appelle supernovae. On tendrait à appeler ces supernovae d'étoiles encore plus massives des hypernovas. Bon, c'est un nom qu'on retrouve dans la littérature, encore plus puissant. Et en général, il s'agit d'étoiles très massives où les enveloppes ont été évaporées par vent stellaire. Ils sont tellement puissants, avec beaucoup de pression de radiation. On les appelle de différents types. Alors, par exemple, on a l'habitude des supernovae 2, qui sont plutôt de ce genre, comme le crabe, qui est très connu, qui a été observé dans l'an 1000 par les Chinois. Donc, c'est quelque chose qui est assez proche et assez bien étudié. Alors, ces SN2, elles ont leur enveloppe d'hydrogène en vert, en plus de l'enveloppe d'hélium. Ce que vous voyez en orange, c'est des éléments plus lourds, carbone, oxygène, azote, et puis au centre, vous avez du fer. Alors, tout cela, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le spectre de ces supernovae, on voit les raies d'hydrogène dans SN2. On ne les voit plus ici, mais on les voit les raies d'hélium. Et ici, on ne voit ni raies d'hydrogène ni d'hélium. Donc, on les a classées en fonction du spectre qu'on voyait. Et évidemment, celles-ci, ce sont les plus massives, puisqu'elles ont eu le temps. Par exemple, les Wolf-Rayet sont des étoiles très, très massives qui, disons, éjectent leur enveloppe pendant une phase de 100 000 à 800 000 ans. avant l'éjection en supernovae, avant l'explosion de supernovae. Donc on a plutôt de ces types-là, 1B, 1C. Alors les 1A, c'est autre chose, hein, ce n'est pas l'explosion d'une étoile en fin de vie, c'est plutôt une naine blanche en couple avec une étoile ordinaire qui ensuite explose. Donc ça peut être une population vieille d'étoiles. Là, tout cela, c'est une population jeune qui collapse. Alors on a des relations, des lois d'échelle qui ont été vues, par exemple par Amati, qui nous permettent aussi de contraindre peut-être les modèles et puis de regarder un petit peu les diverses sources et catégories de mécanismes. Ici, vous avez l'énergie comme si on supposait que c'était isotrope, hein, énergie iso, et puis ici l'énergie du pic que l'on a recalculé dans le référentiel au repos du gerbé en fonction du redshift. Et vous voyez que, alors ici on a des verts et des noirs qui sont des gerbés longs. Ils se distribuent bien sur une loi de puissance avec une pente de 0,5 environ. Alors vert et noir c'est un peu pareil, hein, c'est après ou fermé. Par contre, les courts en rouge sont un peu décalés. Zhang a eu l'idée de les mettre sur la même courbe si, au lieu de l'énergie iso, on prend la luminosité. La luminosité, c'est l'énergie par unité de temps. Comme l'unité de temps, ils sont beaucoup plus courts, par définition des courts, ça les fait remettre sur la courbe. Et vous voyez que les rouges, à ce niveau-là, sont sur la même... Donc on a l'impression de voir une certaine universalité, avec une pente de 0,4, entre les longs et les courts. Ça, ça va nous servir sans doute par la suite. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait deux sources, deux catégories de GRB, des courts et des longs, dont deux secondes étant la séparation. Très souvent, on donne la durée entre tout ce qui est mis entre 5% et 95% de l'énergie. On appelle ça T90. Et c'est une façon de compter, mais ça nous donne un petit peu l'ordre de grandeur. On a vu que si on supposait isotrope, on avait beaucoup trop d'énergie, 100 fois l'énergie de supernovae, mais avec beaming, on arrivait à égaliser un petit peu ces énergies, et que l'émission afterglow peut durer des heures, alors ça dépend de l'énergie, en X et optique, c'est plutôt des heures et des jours, et en radioastronomie, on peut en voir sur les mois, même les années. Donc les sursauts longs, plutôt liés à la mort d'étoiles très très massives, et les sursauts courts ici. Alors, quand je disais ça, on va voir le GRB très long, il y a des exceptions. Il y en a une qui a été donnée récemment par Aoumada et al. En 2021. Donc, c'est un objet qui est ici, vous voyez, un petit peu entre les deux, mais on l'aurait classé court parce qu'il n'a un temps de 1 seconde. Le temps 90, c'est ce que je disais, entre le temps d'avoir émis entre 5 et 95% de l'énergie, donc 90% de l'énergie. Et ce gerbé court a été identifié avec une supernovae. Donc c'est une exception, mais un petit peu ambigu, parce qu'il est à cheval entre les courts et les longs. Hein, ici, vous avez l'énergie du pic, donc on sait que les pics d'énergie des courts est plus haute, et les longs. Et par contre, l'énergie du pic serait bien plus proche des longs. Donc là, il y avait un cas ambigu qu'on aurait classé court et qui finalement, il a été identifié par Fermi, avec des boîtes d'erreurs, etc., par un télescope optique au sol, avec une bonne précision. Et on voit qu'il s'agit de cet afterglow ici. Et alors, on monte une supernovae, donc j'en dirai peut-être plus... la prochaine fois, on a vu qu'il y avait dans l'afterglow une bosse, et les bosses dues aux supernovae sont identifiables très facilement. Alors, un des plus grands redshifts qui a été détecté pendant longtemps, c'est ce fameux redshift 8-23. Alors, comment on le détecte? On peut le détecter soit par des redshifts photométriques, soit par des redshifts spectraux. Alors, quand la galaxie est très très loin, on n'a parfois que le photométrique. Ici, on a les deux, donc il est bien confirmé. On en a un autre à 9.4 qui n'est pas complètement confirmé, il est photométrique pour l'instant. Alors ici, ce que vous voyez, le photométrique, c'est que nous sommes ici dans une région de rayonisation de l'univers. C'est-à-dire, la rayonisation a lieu entre Z égale 12 et 6, c'est-à-dire dans le premier milliard d'années après le Big Bang. Donc ici, on est à 8,23. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'espace entre les galaxies est encore neutre. Il est fait d'hydrogène atomique. Donc si une galaxie ou un GRB émet un certain rayonnement, il va être absorbé par une grande colonne densité d'hydrogène atomique. Et donc, on ne verra rien. On ne verra rien jusqu'à l'arrêt Lyman alpha coupe. Donc ici, c'est la technique qu'on appelle drop-out, c'est-à-dire que l'énergie descend lorsqu'il y a absorption par l'hydrogène. Ici, on est absorbé très très loin. Ici, c'est les longueurs d'onde JHK qui sont à 1 et à 2 microns de longueur d'onde, donc l'infrarouge proche. On ne voit pas l'objet jusque-là et on commence à le voir ici. Donc ça veut dire que toutes ces longueurs d'onde-là, l'hydrogène atomique a absorbé. C'est comme ça qu'on peut avoir un redshift photométrique. Donc ici, on voit bien la chute, le drop-out, justement, et on voit que JHK sont les seuls à être observés, mais le spectro du VLT a confirmé ce redshift de 8,23. Donc on avait 40 heures d'afterglow, et on a exactement une faible abondance de métaux, comme on s'attend pour les GRB longs, qui sont des supernovae d'une étoile jeune. Et en général, on voudrait des étoiles très massives. Alors pourquoi la faible métallicité ? C'est que lorsque vous avez beaucoup de métaux, les métaux refroidissent. Donc si dans le nuage moléculaire qui va donner naissance aux étoiles, si vous avez beaucoup de refroidissants, le nuage va perdre son énergie, va se fragmenter en petits bouts, donc vous aurez des étoiles petites. Lorsque on est au début de l'univers et qu'on n'a pas encore fait beaucoup de métaux, ça veut dire carbone, oxygène, azote, à ce moment-là, le gaz ne se refroidit pas beaucoup et les étoiles peuvent rester très grosses, les nuages ne se fragmentent pas et on peut avoir équilibre entre pression et gravité avec d'énormes étoiles. Donc ce sont les fameuses étoiles de population 3 qui ont toutes disparu aujourd'hui. Donc en général, pour avoir des supernovae et des hypernovae, il vaut mieux avoir une faible métallicité. Donc ici, on voit que ce GRB, enfin, il est peut-être classé long, mais dans son référentiel au repos, il est peut-être court, puisque, comme vous le savez, donc on a un redshift, un décalage vers le rouge de toutes les longueurs d'onde dues à l'expansion de l'univers, mais évidemment, ça vaut aussi pour le gamma ray burst, la durée du gamma ray burst, qui va s'allonger en fonction de l'expansion de l'univers. Donc finalement, 6z égale 8, vous voyez un facteur 9 ici, et donc vous passez de 10 à 1. Donc, dans le référentiel au repos, vous avez 1,1 seconde. Vous avez quand même l'afterglow très bien détecté en X-ray, dans l'infrarouge, dans toutes les bandes. Et c'est semblable à ce qui se passe en fait à z égale 0. Il ne semble pas qu'il y ait une énorme étoile. On a essayé de détecter le gaz moléculaire. Il est possible de détecter à z égale 8. Ça s'est fait avec ALMA, etc. Donc c'était tout à fait possible. Mais il n'a pas été détecté. Donc peut-être que simplement la galaxie était très peu métallique. Pour détecter les molécules CO, il faut beaucoup de C et de O. Et donc ça n'a pas été possible. L'afterglow, vous le voyez ici, toujours à z égale 8, la pente de moins 1 qu'on avait remarquée. Ici, vous avez donc en rayons X, c'est l'instrument X de Swift. Ici, vous avez l'optique. Et vous voyez que la radio est beaucoup plus longue. Ici, vous avez en jours, donc ça fait 3 mois et ça va assez loin. Donc ça, c'est le modèle est représenté par les courbes qui représentent bien les observations, là, les points. C'est un modèle isotrope, à intensité constante, donc très simple. Et représenté ici, c'est la cassure du G, qui n'a pas encore été observé, mais qu'on suppose qu'il va être observé à ce niveau-là. Alors, le spectre en fonction de l'énergie est un spectre synchrotron qui peut être self-absorbé, donc ça redescend par ici, qui peut être aussi une absorption free-free, donc ça peut être simulé aussi. On a donc cette cassure due au refroidissement qui nous donne un pic qui est plus ou moins loin selon le degré de refroidissement. Ce que vous voyez ici, c'est que le pic se passe à 1 mm de longueur d'onde. Ici, vous avez une longueur d'onde. Et donc, tout le millimétrique, et notamment ALMA, qui est le dernier interféromètre, a énormément de puissance pour détecter dans le continuum ces GRB. Et c'est ce qu'ils font, évidemment. L'afterglow pour plusieurs GRB, vous voyez que ces pentes sont vraiment toujours un petit peu les mêmes. Donc ça, c'est certainement quelque chose d'universel qu'il va falloir reprendre dans les modèles. Et vous avez un diagramme qui vous montre si à combien de fréquences on peut détecter les afterglows à la fois en X, en optique et en radio, par exemple 65, donc c'est pas mal, ou en radio seulement, en optique seulement, en X seulement, etc., toutes les intersections. Vous voyez que les afterglows en toutes les longueurs d'onde sont pas mal détectés. Et ici, on voit la sensibilité du VLA, qui est le Very Large Array aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. On voit que le nouveau VLA a une sensibilité bien suffisante pour détecter tous ces afterglows qui sont à des redshifts 8, 6, 2, etc. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de relativement facile, même si ça dure assez peu. On voit que c'est, les afterglows sont à peu près toujours à la même descente et on a une certaine... Alors, la détection est de 30% sur les 300 afterglows. Alors, là... Je disais aussi qu'on peut se servir de ces sources comme des jalons pour avoir une idée pour tester le milieu intergalactique. Ce qu'on fait devant les quasars, en général, on a des raies d'absorption devant les quasars. Ici, c'est encore mieux puisqu'on va encore plus loin, 8, 9, ce sont les sources les plus lointaines. Les gamma-rays ne sont très peu éteintes, donc il y a moins d'absorption, donc ce serait un outil très, très intéressant. Et en effet, voici ce qui a été observé par Moller et al. Avec une intégration d'une heure seulement, 10 heures après le sursaut, donc dans l'afterglow. Vous voyez, toutes les raies en absorption du C4, certains sont des dimps saturés même. Donc c'est très intéressant d'avoir, lorsqu'on aura des milliers et des milliers, en fait on en a déjà pas mal, de tester le milieu intergalactique entre le GRB et nous. Alors il y a d'autres indications dans l'afterglow qui permettent de contraindre un peu les modèles. Vous voyez qu'en fonction du temps, on peut distinguer une descente relativement douce, puis rapide, et puis tout d'un coup on a un plateau. Très souvent, dans à peu près la moitié des cas, on a un certain plateau. On a l'impression qu'il y a une réénergisation de l'afterglow, puis ensuite ça redescend. Alors cette caractéristique qui se trouve à peu près dans la moitié a été exploitée donc par Fan Lexu en disant que peut-être on pourrait dire si c'est une fusion d'une étoile à un neutron qui donne des magnétars, car à ce moment-là on a peut-être une kilonova avec une réinjection continue d'énergie. Elle peut être cette réinjection due soit à la radioactivité de cette kilonova ou alors simplement à l'énergie cinétique qu'il y a dans le magnétar. Le magnétar est, comme on l'a vu, avec un très très fort champ magnétique, supérieur à 10 puissance 14 Gauss, et qui fait émettre les électrons dans ce champ magnétique avec un taux tellement grand que l'énergie cinétique du pulsar, par exemple, l'étoile neutron en rotation, est éjectée finalement. Donc ça peut redonner l'énergie et se retrouver dans l'afterglow. Alors ça a été simulé par Dalosso et al. Par exemple, et ils ont pu montrer que ce modèle où on tire de l'énergie du spin-down du magnétar correspond un peu aux courbes que l'on voit avec un plateau ici. Donc c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est ça exactement, mais c'est une possibilité compatible avec les observations. Il y a aussi dans ces afterglows qui sont assez riches en informations, non seulement une décroissance ici, mais parfois des sursauts secondaires. On appelle ça X-ray flare. Un flare, c'est un sursaut, quelque sorte. Et ces sursauts sont ici à faible énergie et à forte énergie. On voit que le rapport de dureté, du dur sur le mou ici, est assez fort et peut-être est dû à des chocs internes qui sont vus ensuite par un certain point de vue de l'observateur par rapport au jet. Alors voici certains qui sont représentés ici avec les observations et puis les modélisations en courbe. Donc ça peut être surtout, tous peuvent être, on ne sait pas si ça vient de l'objet central ou bien du jet ou de l'afterglow, mais en fait tous les sursauts peuvent être expliqués par l'activité de l'objet central, moins de la moitié par les chocs internes, et au moins 15% seulement par l'objet central. On ne sait pas exactement quelle est la fraction qui est dû à l'objet et puis au jet, mais en tout cas, l'objet central permet d'expliquer tout, même si ce n'est pas seulement la seule explication. Alors voici ces statistiques-là. On a à la fois des courts qui sont en rose, ils ne sont pas très visibles ici, très peu nombreux, et puis les longs. Et on voit qu'en fonction du temps où apparaît le pic, on a une bonne relation d'échelle. On a aussi des relations entre la largeur et l'énergie, etc. En tout cas, ce qu'on voit dans ce diagramme ici, c'est que le flare est beaucoup plus mou en émission que le GRB. Donc ça, ça va aussi nous donner des indications sur les modèles appliqués. Alors maintenant, je parle des galaxies hôtes, dont j'ai dit peut-être déjà un petit peu. Ici, vous avez une galaxie hôte d'un GRB court, qui est représenté ici, hein, on le voit. Et ici, un GRB long, qui est, comme d'habitude, ils sont toujours, hein, exclusivement, dans des galaxies spirales, avec beaucoup de gaz, qui forment beaucoup d'étoiles. Donc ici, c'est toujours associé à des régions de formation d'étoiles intenses. Ça tombe bien dans le modèle théorique qui nous dit qu'il faut qu'il y ait des hypernovas, c'est-à-dire des étoiles massives qui, en général, ont une durée de vie de 10 millions d'années ou moins. Donc il faut qu'elles soient dans une région de formation d'étoiles. Donc en effet, vous voyez que le GRB ici est bien dans cette genre de galaxies spirales, ou bien des mergers entre galaxies, ce qui veut dire encore plus qu'il y a un starburst, et donc beaucoup plus de formation d'étoiles. Par contre, pour les cours, eh bien, ça ne peut être que des populations vieilles. Bon, ça peut être aussi des galaxies spirales, mais des galaxies elliptiques. Toutes galaxies où il existe des populations vieilles font affaire avec ces GRB cours qui viennent d'étoiles à neutrons qui sont des vestiges d'une ancienne formation d'étoiles et qu'on n'a pas besoin de formation d'étoiles récente. Alors, au point de vue de la métallicité, c'est assez bien confirmé aussi. Vous voyez que ici, on a la luminosité de la galaxie, donc la magnitude est plus forte, donc la luminosité est plus forte ici. Vous avez une relation bien connue entre la métallicité, qui est ici 12 plus O sur H, en log, et une relation à Z égale 0 en grisé, ça ne se voit pas très très bien, mais on voit que toutes les galaxies qui sont à des redshifts semblables sont les étoiles violettes. Les cours en bleu ont une métallicité un petit peu égale, par contre les longs sont en dessous. Donc on voit bien que pour avoir un GRB long, des étoiles massives, il faut une métallicité faible plutôt. On le voit bien ici que en distribution cumulée, les violets et les bleus sont à peu près la même distribution, alors que les GRB en gris sont différents. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les cours sont exactement de la même métallicité que les galaxies ordinaires, normales. Par contre, les longs ont besoin d'une faible métallicité. Peut-être au bord d'une galaxie normale, mais avec une faible métallicité. Alors, lorsque on a un cours, on a ce qu'on appelle, et ce qui a été prévu depuis longue date, des kilonovas, c'est-à-dire lorsqu'on a fusion de deux étoiles à neutrons, hein, NS-NS, étoile à neutrons en couple, on en a vu une qui a eu beaucoup d'effets médiatiques lorsqu'on a détecté les ondes gravitationnelles associées à cet événement en 2017. Alors, les ondes gravitationnelles, c'est la même détermination. On a l'année, le mois et le jour. Donc en 2017, comme vous le savez, on a détecté la première onde gravitationnelle due à la fusion des étoiles à neutrons. Et on a observé une kilonova. Alors pourquoi kilonova ? Ben, c'est une énergie qui fait 1000 fois l'énergie d'une nova, mais qui est bien inférieure à une supernova. Donc c'est entre les deux. Et cette explosion a permis, dû certainement, même sûrement, au flux rapide de neutrons qui a été émis dans la fusion, à produire des éléments lourds, on va le voir, tout à fait caractéristiques de ce processus. Donc c'est ce qu'on appelle le processus rapide, émission rapide de neutrons, qui produit des éléments lourds au-delà du lanthanide. Pourquoi on ne peut pas les faire autrement ? C'est que toutes les réactions nucléaires produisent jusqu'au fer une réaction exothermique. On gagne de l'énergie jusqu'au fer et ensuite tout le reste, il nous faut fournir de l'énergie. Et cette énergie est fournie par le flux de neutrons rapides qui permet d'aller au-delà du fer pour faire des aimants beaucoup plus lourds grâce à toute l'énergie qui a été émise. Donc par les fusions d'étoiles à neutrons, on peut former tous ces éléments comme par exemple l'or, le platine, donc tous ces éléments qu'on trouve sur Terre et qui sont en effet dus à ces fusions. Donc cette kilonova qui a été ici associée à cet événement court se voit ici avec des modèles. Alors évidemment, les modèles on peut éjecter plus ou moins de matière. Ici, c'est, l'éjecta, c'est 0,1 masse solaire ou 0,01. Mais en tout cas, l'afterglow est assez bien modélisé par cette kilonova. Alors, cette kilonova, j'ai dit déjà que ça avait été préparé déjà depuis longtemps par Lee et Paczynski, en 1998, avant qu'on ne les observe même. Metzger ont inventé ce mot de kilonova en 2010, ce qui est beaucoup plus facile pour se rappeler de ce que c'est. Et voici l'événement d'onde gravitationnelle qui avait été vu. Donc vous avez les deux étoiles à neutrons sont devenues trous noirs avec un petit désaccrétion. On a ce G qui est responsable du gamma ray burst court qu'on a observé arriver à peu près au même moment que les ondes gravitationnelles, à la seconde près. Et puis, dans l'autre, dans tous les sens presque isotropes, votre émission là, d'un choc et d'éjecta et qui émettent un afterglow optique et puis plus tard même radio qu'on a détecté un an ou deux après. Donc, pourquoi la kilonova? C'est 1000 fois la luminosité d'une nova ici. Alors ici, l'énergie, elle est due très vite, les éléments se forment. Et comme pour une supernova de type 1A d'ailleurs, on forme le nickel 56 et tous ces éléments radioactifs qui vont durer 20 jours. Dans la supernova, la courbe de lumière est due essentiellement à ces éléments radioactifs. Donc on a quelque chose qui va ressembler à cette courbe de lumière et due à ces radioactivités des éléments. Alors voici Metzger et Tal qui ont, en 2010, donc bien avant même la kilonova observée en 2017, essayé de regarder l'afterglow d'une kilonova. Alors vous voyez un petit peu l'effet de la kilonova ici avec le nickel et le cobalt radioactif, quelques modèles et variations de modèles, et en tout cas au point de vue formation des éléments par le processus rapide de bombardement de neutrons, le modèle et la courbe, et ce qu'on a en point, c'est l'abondance de tous ces éléments dans le système solaire. Donc on voit par exemple le pic du xénon, le lanthane, et ici on a le platine et l'or, avec des tas d'éléments qui ont des noms un peu bizarres, puisqu'ils sont découverts un peu plus tard, donc vous ne le reconnaîtriez pas, mais c'est quand même assez frappant, le bon accord entre la théorie et ce qui est observé. Alors cette théorie a pu être vérifiée avec les courbes de la kilonova de 2017. Vous voyez ici le premier 1,5 jours après la fusion qui a été, l'instant zéro a été donné par le GRB court et par les ondes gravitationnelles, et puis peu à peu, 2-5 jours, 3-5 jours, 8-5 jours, etc. Donc tout cela a été une très très bonne confirmation du modèle de kilonova. Alors, autre caractérisation des galaxies hautes, vous voyez aussi au point de vue énergie, en fonction du redshift, déjà que les short GRB qui sont en bleu ici ont relativement peu d'énergie et sont détectés à faible redshift, alors que les supernovae et les GRB longs ont à peu près les mêmes énergies là-haut, en rouge. Donc ça colle bien. Ici, on le revoit à nouveau, la distribution redshift des courts qui vont jusqu'à, en gros, c'est 1, 2 et puis quelques-uns ici, et les longs qui vont jusqu'à 9 et plus. Vous voyez pourquoi on peut faire de la cosmologie avec les longs. Ici, le camembert vous donne la distribution de ce qu'on a trouvé pour les GRB courts, donc un petit peu d'étoiles, de galaxies de type spirale, mais aussi beaucoup d'elliptiques, et puis certains, on n'arrive pas à conclure parce qu'ils sont relativement loin. Et puis la distribution en formation d'étoiles. La formation d'étoiles, vous voyez que les longs ont une formation d'étoiles beaucoup plus grande. Ici, vous avez formation d'étoiles en fonction de la luminosité. Les courts, ils sont en dessous de la séquence principale et les longs sont en dessus. Donc toujours confirmation observationnelle qu'il nous faut des formations d'étoiles pour avoir ces supernovae. Donc ça confirme que les GRB longs sont associés à ces supernovae. Et les courts, eh bien, on peut en trouver en dehors même des galaxies lorsqu'ils sont associés. Vous voyez que les offsets peuvent être très grands. Certains peuvent être, par exemple, des amas globulaires autour des galaxies. Donc on n'a pas besoin de les avoir même dans le disque des galaxies. Alors, pour l'application à la cosmologie, c'est un petit peu le même intérêt que pour les supernovae, avec les avantages que les GRB sont détectés encore plus loin et aussi sont insensibles à l'absorption, la poussière qu'il y a dans les galaxies hôtes. Alors vous savez qu'on a tracé ce diagramme de Hubble ici, c'est-à-dire que le module de distance des supernovées en fonction du redshift, on le voit en bleu pour les supernovées de type 1A, qui sont, elles, des chandelles standards. Et on voit qu'on va pouvoir faire le même test avec les GRB, et ça va, lorsqu'on en a des milliers, peut-être nous donner beaucoup plus de précision sur ces, peut-être voir un petit peu si on a un défaut par rapport à un modèle standard, lambda CDM, grâce au GRB. Donc ça, c'est un des outils qui va être complémentaire aux supernovae, donc ça, c'est très intéressant. Enfin, les perspectives, on a pour l'instant, avec SWIFT, par exemple, détecté des GRB jusqu'à 8-9. Il y a des instruments qui sont en préparation, je citerai celui de Thésus, qui est un projet de l'ESA, avec un satellite où il y aura des gamma, des X et des infrarouges. Et on voit que si ces GRB existent, on va pouvoir les détecter facilement à des redshifts de 15 jusqu'à 20. Alors on ne sait pas s'ils existent. Hein. Z-gamma, ça commence à être les premières galaxies primordiales. On va voir que le James Webb télescope, on va pouvoir commencer à les détecter. Mais en tout cas, s'il y a des GRB et des énormes, et certainement ce sera les longs, des énormes hypernovas, on va pouvoir les détecter jusqu'à ces redshifts-là. Donc là, la perspective est très intéressante avec Thésus. Donc finalement, en résumé, on a, vous voyez, une petite animation d'un GRB qui se met à briller ici. On a trouvé des GRB en deux catégories, selon leur durée. La séparation est en 2 secondes. Il y a des longs qui ont un spectre mou, des courts un spectre dur, mais en règle générale, l'énergie totale des courts est bien inférieure à l'énergie totale des longs. Il y a des afterglows qui permettent d'identifier la galaxie hôte et d'avoir donc le redshift, la distance et la nature de l'objet. Est-ce qu'on a une supernovae ? Très souvent, pas encore pour tous, mais très souvent, on a la supernovae. Il est possible aussi que, à cause du beaming, on a parfois l'afterglow seulement et pas le GRB. Donc, on attend à avoir, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'alerte, mais il y a au moins 2 ou 3 cas où on a détecté un afterglow mais sans le GRB, si on peut dire. Alors, les galaxies hôtes, on pense que les longs seront uniquement des spirales, des mergers de galaxies avec beaucoup de formations d'étoiles et une faible métallicité. Par contre, les courts, ça peut être n'importe quel type de galaxie, puisqu'il y a des vieilles populations dans toutes les galaxies. Et enfin, on a beaucoup d'exploration, d'applications dans l'exploration du milieu intergalactique et la cosmologie. Donc la semaine prochaine, on traitera des théories. Mais pour l'instant, vous allez avoir un séminaire de Susanna Bergani, qui est directeure de recherche à l'Observatoire de Paris, qui va continuer de vous parler des observations. Merci.